la prière de la foi. Nous lirons d'abord dans Matthieu 17, Matthieu 17, verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, remarquez cela, c'est un peu savoureux, n'est-ce pas? Dans le fond, ils se sentent un petit peu en difficulté, ils se sentent un peu responsables, ils préfèrent n'avoir pas de témoin pour dire leur petite affaire, confier leur petite affaire à Jésus, n'est-ce pas? Alors ils le prennent en particulier. Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon, Seigneur? Dis-nous ça à nous, bien à nous, uniquement à nous, n'est-ce pas? Que les autres ne l'entendent pas, surtout, n'est-ce pas? Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité. En effet, la réponse, n'est-ce pas, valait mieux qu'elle leur soit réservée à eux, n'est-ce pas? Tout à fait à eux. Ils s'attendaient bien à quelque chose comme ça. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Je n'ajoute pas le verset 21 qui est en dehors de notre préoccupation actuelle. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne, alors, bien entendu, nous entrons tout de suite dans un langage imagé, vous le comprenez, hein? Il ne s'agit pas de déplacer les montagnes, il s'agit là d'un langage imagé. Vous diriez à cette montagne, c'est comme le sycomore qui se transporterait dans la mer, là où il n'en pousse point, n'est-ce pas, en plein sable de la mer. C'est là une comparaison. Et le Seigneur montre, n'est-ce pas, prend une chose impossible, absolument impossible. Par la vue humaine, on ne voit pas comment une montagne se déplacerait ou comment un sycomore se déracinerait pour aller se planter dans la mer. Eh bien, rien ne vous serait impossible. Ce qui est donc l'impossible dans une considération humaine, avec une vue humaine, c'est impossible de ce qui est impossible devient possible. Rien ne vous serait impossible. Or, comme rien n'est impossible à Dieu seul, c'est donc que par la prière, on peut se servir de la puissance illimitée de Dieu. Voilà quelque chose d'extraordinaire. Et puis alors, au chapitre 21, verset 18. Chapitre 21, verset 18. Nous sommes dans le figuier maudit. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi, et à l'instant le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent comment ce figuier est-il devenu sec en un instant. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez. Et il y a d'autres déclarations de cet ordre, n'est-ce pas? Tout ce que vous demanderez. D'autres déclarations qui font apparaître aussi d'autres conditions. Nous les verrons après. Mais pour l'instant, nous nous intéressons à la condition de foi. Elle est évidemment capitale, déterminante. Avoir de la foi, c'est d'abord avoir une foi qui n'est pas constamment en balance avec le doute. Foi, flambée de foi, et puis effondrement, et voilà, n'est-ce pas, les marécages du doute. Alors, ça, il ne faut pas de doute. Ce que Jésus précise dans l'évangile de Marc, au chapitre 11 et au verset 24. Chapitre 11 de Marc, verset 24. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu. en demandant, au moment où vous demandez par la prière. Voilà, n'est-ce pas, très nettement enseigné par Jésus, ce que doit être la prière de foi. Croyez que vous l'avez reçue. Vous voyez comme Dieu veut que nous soyons objectifs. Alors il faut que la prière soit objective, parce que si j'ai une prière vague, comment vais-je pouvoir croire que je l'ai reçue, hein? Si je dis par exemple, Seigneur, transforme tous les hommes et fais qu'il n'y ait plus de méchants sur la terre, j'ai quelquefois entendu quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Eh bien, il faut que je croie qu'à l'instant, n'est-ce pas, il n'y aura plus de méchants sur la terre, mais c'est une prière qui n'a pas d'objectivité, cela, n'est-ce pas? Alors, une prière objective, une prière qui est une requête ou qui peut peut-être avoir aussi une autre forme, mais enfin, de tout sens, il faut qu'elle soit objective. Croyez que vous l'avez reçue et vous le verrez s'accomplir. Il ne faut pas douter dans son cœur, ne pas douter. Et croire que la chose demandée est déjà obtenue, en quelque sorte. La foi doit donc nous permettre de nous tenir déjà sur le terrain demandé. Demandons un certain terrain, eh bien, il faut déjà que nous nous voyons sur ce terrain, que nous soyons là, dans l'exaucement de la prière. Considérer la chose demandée, ce ne peut pas être se persuader artificiellement, se suggestionner. Hein? Ça, ce serait encore une vue de la chair. C'est parvenir à une telle confiance en Dieu et en sa fidélité que, comme je vous le disais, on occupe déjà le terrain demandé. On occupe déjà le terrain demandé. C'est entrer dans un contrat de foi avec Dieu, un contrat qui s'établit lors de la prière et qui est déjà signé d'avance par Dieu. En somme, prier, c'est la prière de foi, c'est prendre un contrat, n'est-ce pas, qui est en blanc, y inscrire sa demande, merci Seigneur, car tu avais déjà signé le papier, alors voilà, j'ai le contrat avec Dieu, je viens de prier, il n'y avait plus que moi qui devais inscrire le libellé de la demande, n'est-ce pas, et puis mettre ma propre signature, mais ça j'en dispose de ma signature. Eh bien, je ne peux pas disposer de la signature de Dieu, mais elle y était déjà. Elle y était. Et en effet, nous avons ça dans Jean 15. Jean 15. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, nous verrons cette condition-là d'autre part, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela sera accordé. C'est un blanc-seing. Demandez ce que vous voudrez et cela sera accordé. Par conséquent, je dis bien, la prière de foi, c'est un contrat avec Dieu, c'est nous qui avons à remplir le contrat. Mais on nous donne un contrat déjà signé. Un contrat déjà signé par Dieu. Alors au moment où nous faisons la prière, où nous apposons nous notre signature et le libellé de la demande sur le contrat, eh bien c'est fini, nous avons le contrat en main. Nous avons le contrat en main. Et comme Dieu est fidèle, et comme Dieu ne peut pas renier sa parole, eh bien le contrat sera nécessairement exécuté. Alors il y a là, n'est-ce pas, un mécanisme spirituel qui ne peut pas être psychique. Je le répète, il n'y a pas de suggestion à se faire. N'est-ce pas, se travailler, n'est-ce pas, pour dire, oui, je crois, oui, je veux pas douter, si ce que je demande, je l'ai, c'est pas ça, n'est-ce pas, n'est pas ça. C'est un contrat, je vous dis, un contrat est quelque chose de posé, de clair, c'est quelque chose qui se fait dans la tranquillité. La foi, d'ailleurs, la foi vivante est une foi tranquille, n'est pas une foi agitée, c'est une foi tranquille. Vous savez que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Cela nous est dit à propos d'Abraham dans Romains 4, 13 à 22, Romains 4. Et c'est très important cette déclaration-là de l'apôtre Paul. Verset 17. « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Il y a là l'évocation d'un très haut principe. En effet, lorsque Dieu a résolu une chose et qu'il l'a décrétée, que la parole est sortie de sa bouche, cette chose peut ne pas être constatable ou constatée, elle existe. Elle existe. Elle existe du seul fait qu'il y a une volonté de Dieu pour elle. C'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas, dès que cette volonté de Dieu est formée et exprimée, et c'est pourquoi Jésus est la parole de Dieu, lui qui exprime la volonté de Dieu, exprimant la volonté de Dieu, il a donc créé le monde par cette volonté, par cette parole qui exprime la volonté de, la volonté de Dieu, que la chose soit et la chose fut. Alors, en priant, la foi du cœur doit aussi regarder la chose demandée comme étant. Comme existant. Voilà, n'est-ce pas? En somme, il nous faut atteindre à cette perfection de Dieu par le moyen de la foi. La foi va nous faire atteindre à cette voie de Dieu qui lui est propre, mais par la foi, n'est-ce pas? Et nous allons utiliser, nous allons sur le terrain de Dieu, et là, n'est-ce pas, nous travaillons en collaboration avec Dieu. La foi nous fait donc collaborer avec Dieu, nous sommes ouvriers avec Dieu, nous collaborons avec lui. Alors, nous aussi, par la prière, et notre foi étant entière, alors, la chose que nous demandons, eh bien, nous l'avons. Nous l'avons. Nous l'avons demandé dans les conditions, bien entendu, requises, je suppose cela, n'est-ce pas? Nous l'avons. La chose qui n'est pas, c'est-à-dire qui n'est pas encore constatable, cependant, nous l'avons. Parce que nous prions avec cette foi qui nous permet d'être, si vous voulez, comme Dieu, puisque rien ne nous est impossible. Alors, la prière nous permet, dans le cadre limité de la demande, d'être comme Dieu. D'ailleurs, c'est ce que Dieu a voulu tout au long des Écritures. Il a voulu que Moïse, dans la mission qui lui était donnée vis-à-vis de Pharaon, soit comme Dieu. Toi, tu prendras la place de Dieu, et puis Aaron sera ton prophète. Eh bien, nous, en Christ, n'est-ce pas, Dieu veut que nous soyons comme lui, dans le cadre limité de notre prière de foi, prière selon sa volonté, bien entendu, n'est-ce pas. Alors, la chose que nous disons, il voudrait que notre parole fût comme sa parole à lui. Et la chose que nous demandons, eh bien, c'est une chose nécessaire, selon la volonté de Dieu. Alors, notre foi a cette vertu, a cette grande possibilité de nous permettre, dans le cadre limité de la demande, de la prière que nous formulons, d'être comme Dieu, nous prononçons, et la chose est, elle est, avant d'être constatée. Voilà, chers amis, en creusant, n'est-ce pas, la pensée exprimée par le Seigneur, ce à quoi nous arrivons. Vous voyez, c'est très grand, évidemment. En priant, la foi du cœur doit donc pouvoir regarder comme étant, comme existant, la chose qui a été demandée alors qu'elle n'est pas constatable, qu'elle n'est pas visible. Faut-il se dire, comme cela est arrivé, hein, on pourrait dire ça appartient à la psychologie du chrétien, oui, je l'ai à terme. Non, 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 non. Ben, alors vous trahissez. Si vous pensez cela, vous trahissez précisément l'instruction du Seigneur. Ça ne veut pas dire « je l'ai à terme »,« je l'aurai à terme ». Non, à terme, vous la constaterez à terme. Mais vous ne l'avez pas à terme, vous l'avez maintenant. C'est bien ce que nous dit le Seigneur. Croyez que la chose demandée, vous l'avez reçue. Vous l'avez reçue. Sachons bien, n'est-ce pas, ce que ça veut dire. Le Seigneur ne parle pas un langage équivoque. Vous l'avez reçue. Donc, par conséquent, ne disons pas « je l'ai reçu, mais à terme », non, je la constaterai à terme, mais je l'ai reçu maintenant. La constater n'est pas nécessaire. n'est pas nécessaire. Ce n'est même pas bon. Dieu est sage. Dieu a une sagesse, évidemment, à laquelle nous ne pouvons accéder qu'à travers le Christ et par le moyen du Christ, n'est-ce pas, qu'en l'appuisant, en la recherchant dans le Christ, parce que nous, notre sagesse, n'est-ce pas, elle est mauvaise, elle est la sagesse de l'âme, la sagesse de l'âme, de l'homme, de la chute. Hein. Alors, ne nous fions pas à notre sagesse, tout ce que fait l'homme est dans un vaste tissu de mensonges, parce que l'homme ne peut pas tirer la vérité de lui-même, il ne peut pas avoir la vérité en son âme, si son âme n'est éclairée par Dieu, par l'Esprit de Dieu. Alors, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas bon, car alors, où serait la foi? Si, n'est-ce pas, je n'avais qu'à dire, Seigneur, j'ai besoin de cela, hop, et je le vois tout de suite, n'est-ce pas? Alors, ce serait facile, j'aurais pas le temps de douter même, n'est-ce pas? J'aurais même pas le temps. Hein, j'aurais qu'à donner, faire un sursaut de foi, peut-être, et puis ce ne serait même plus la foi, n'est-ce pas? Je dirais, Seigneur, j'ai besoin de ça, mais je l'ai, là, n'est-ce pas? Alors, ça ne va pas. Il faut donc que la constatation soit différée. Elle peut être différée de très peu de choses, des fois d'une seconde, même pas. Quand Dieu veut, elle peut. Ça dépend des circonstances, ça dépend de Dieu, ça dépend de ce que Dieu voit et trouve dans notre cœur. Quand il trouve une foi solide, magnifique et prouvée, ben vous savez, Dieu ne prend pas plaisir à faire attendre la manifestation de son exaucement. Hop, il la donne tout de suite. S'il l'a fait attendre, c'est parce qu'il a besoin de travailler notre cœur. Il a besoin de travailler. Alors, il voit bien que notre cœur, c'est une sorte de paysage sur lequel il y a tantôt un petit ensoleillement, et puis alors des nuages sombres du doute viennent, obscurcissent tout, n'est-ce pas? Voilà comment Dieu voit le fond de notre cœur. Et faut-il attendre la chose que nous avons demandée? Non, il ne faut pas l'attendre. Il faut savoir que nous l'avons reçue. Et rester dans cette certitude, la regarder comme étant réalisée, comme étant obtenue. Dans Romains 4, nous avons lu ceci. Nous ne l'avons pas lu, mais c'est dans le contexte, on va regarder un peu le contexte. Au verset, lisons à partir du verset 13. Ce n'est pas par la loi, oui, que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, afin que ce soit par grâce. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, c'est-à-dire aux Israélites, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père, à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut. » Il n'avait pas de raison d'espérer, de raison humaine d'espérer. Il n'en avait pas. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi. Ah, voilà bien le mot. Sans faiblir dans la foi. En gardant une foi qui occupe toujours son niveau. Une foi qui ne sombre pas là d'un seul coup. Ouh, elle s'évanouit, n'est-ce pas? Sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Voyez, sa propre foi le fortifie, comme dit Jude, n'est-ce pas? Édifiez-vous sur votre propre foi, sur la sainte foi, n'est-ce pas? Votre foi, voyez, la foi maintenue, eh bien, permet d'être fortifié. On se fortifie par sa propre foi. N'est-ce pas? C'est magnifique cela. Il ne douta point, il n'était pas dans les conditions humainement, si vous voulez, appréciable, il n'était pas dans les conditions d'avoir des enfants, mais la pensée de son cœur, la pensée de foi de son cœur, passe outre à cette impossibilité à vue humaine, il passe outre, car la promesse de Dieu est là. Il avait une promesse de Dieu, elle était là. Espérant contre toute espérance. Pourtant, le temps avait joué, il avait eu l'épreuve du temps, et l'épreuve du temps avait été dure pour lui, n'est-ce pas? N'oublions pas Ismaël entre-temps. Ah, l'épreuve du temps avait été... Il espérait. Mais il avait quand même subi des épreuves, et notamment l'épreuve du temps. Eh bien, il continuait d'espérer, et il ne regardait pas aux impossibilités. Si nous posons, nous, la question, par exemple, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, oh, comment cela se peut-il? Comment cela se fera-t-il? Alors nous doutons. Et dans ce cas, la foi est radicalement absente, écartée. Et ça arrive, mes amis, lorsque l'on dit par exemple à quelqu'un, « Bon, vous êtes dans telle difficulté, vous avez tel obstacle devant vous, dans votre propre vie, dans votre existence, vous n'arrivez pas à sortir d'un certain marasme spirituel. Bon, eh bien alors, écoutez, lisons la parole, alors on lit les versets appropriés, et croyez, saisissez cela, cette parole. Oui, mais comment cette difficulté va-t-elle pouvoir s'écarter? Regardez, n'est-ce pas, il y a ceci, il y a cela. Alors comment cette difficulté va-t-elle pouvoir? Comment Dieu va-t-il faire? Alors, si vous dites cela, inutile de parler de foi. Inutile de parler de foi. Comment Dieu va-t-il faire? Comment a-t-il fait pour Abraham et pour Sarah, et d'autres femmes qui étaient stériles d'ailleurs, mais qui étaient déjà avancées en âge, comme Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Ben, comment fait-il? Il ne faut pas poser une telle question. Si vous avez dans le cœur une telle question, eh bien c'est que vous laissez votre raison dominer sur votre cœur, sur votre foi. Alors, si nous savons que la chose que nous avons demandée, en la demandant, avec foi, nous l'avons reçue. Ce sont les propres termes du Seigneur. La chose que vous demandez, il faut croire que nous l'avons reçue. Si nous croyons que nous l'avons reçue, avant de la constater, nous allons pouvoir rendre grâce. Nous allons rendre grâce avant de constater l'exaucement. Pas attention. Et c'est là que ces petits livres dont je parlais l'autre jour, n'est-ce pas, sont nocifs. C'est qu'ils en font un système. Ils en font quelque chose d'artificiel et quelque chose, disons, de superstitieux. Automatiquement, je vais dire, je te rends grâce, Seigneur, je te loue, Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, je te loue. Bah, autant réciter, je vous salue Marie, n'est-ce pas, que de faire ça. Ça ne sert à rien, ça. C'est artificiel, c'est pas spirituel, ça. C'est artificiel, ce qu'on dit là. Il dit là à n'importe quelle personne, il faut avoir les dispositions de cœur, la pureté de cœur, l'état d'obéissance. Nous verrons toutes ces choses, n'est-ce pas, pour pouvoir agir ainsi. Mais si ça n'est pas artificiel, si véritablement nous savons qu'en demandant une chose, nous avons signé, nous, un contrat qui était d'avance signé par Dieu, par Jésus, alors, en ce cas, n'est-ce pas, merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, ton esprit par lequel je t'ai prié m'a poussé à te demander une chose. Je viens, moi, par la prière, de formuler la chose que dont j'ai besoin. J'ai signé le contrat, j'ai le contrat en poche. Merci Seigneur. Merci Seigneur, gloire à toi, n'est-ce pas? Je rends grâce. Et c'est ce que nous dit le Seigneur Jésus dans Jean 11, à propos de la résurrection de Lazare, Jean 11, verset 40, s'adressant à Marthe, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ne t'ai-je pas dit cela ? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Ce moment-là, que voit-on? Rien. Lazare est toujours dans son tombeau, n'est-ce pas? Il est encore dans son tombeau. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Je savais. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alors, j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Savez-vous que nous sommes dans cette foule-là? Jésus n'a jamais parlé pour une génération seulement. Il n'a jamais parlé pour ses contemporains seulement. Il a parlé pour eux, mais bien plus encore pour nous, parce que les contemporains ne comprenaient pas même les apôtres ce qu'ils disaient. Et ça, c'était destiné à être enregistré dans la Bible, dans le livre de Dieu, à être rappelé par le Saint-Esprit pour être consigné ici. Et c'était à notre usage, à l'usage de toutes les générations de l'Église. Alors, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous que le Seigneur a dit, je Père, hautement, à voix haute, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort, et le mort sortit. Nous avons ici une invitation, puisque Jésus a parlé à cause de la foule de ses disciples dans toute l'Église. Eh bien, pour nous, il a parlé à cause d'eux, et il a rendu grâce. Et sachant que Dieu l'exauce toujours, et c'est bien ce qu'il nous a dit pour nous-mêmes, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Alors, donc, il y a un exaucement qui, dans la volonté de Dieu, est immanquable. Voilà, vous voyez, les bases de la prière, de la foi. Il ne faut pas altérer ça. Il y a des bouquins qui sont allés chercher un tas d'atténuations, dire oui, mais il arrive que, ou il arrive encore que, etc. Non, 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 voilà les bases. Établissons-nous sur les bases. Nous n'avons pas réussi jusque-là. Bon, ça, c'est une autre affaire. Mais ça ne veut pas dire que nous n'allons pas réussir. Si nous voulons avoir la foi, si nous exerçons notre foi, nous devons réussir. Dans l'Église primitive, est-ce qu'ils n'ont pas réussi? Est-ce qu'ils n'ont pas travaillé avec des exaucements de prière? Ils n'avaient que ça en main, c'était ça. Ils n'avaient pas de puissance, pas plus de puissance que nous. Ils avaient des exaucements de prière, c'est tout. Nous avons encore le temps de voir un grand exemple de cela. Il y a dans l'Ancien Testament un grand exemple, il ne faut pas manquer de le voir, c'est dans Josué 6. Josué 6, la prise de Jéricho. Alors, je ne vais pas relire tout ce chapitre parce que je pense que vous l'avez en mémoire, mais lisons le commencement. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Voilà, à vue humaine, ce qu'on constatait, ce qu'on voyait. Impossible de rentrer dans cette ville ou d'en sortir. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. » Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours, 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes, le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris, alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera chacun devant soi. Alors, voilà, n'est-ce pas, quelle était la promesse, et vous voyez qu'elle est très claire, nette, détaillée, objective, la promesse faite par Dieu. C'est au 7e jour seulement que la muraille doit s'écrouler et que la ville sera de façon constatable, livrée vraiment au peuple d'Israël. Pendant les 6 jours qui précèdent, elle ne sera pas, et elle sera effectivement livrée, n'est-ce pas? Mais ce ne sera pas constaté. On ne, on ne jouira pas, si vous voulez, de l'acte que Dieu a annoncé, a promis. On en jouira le septième jour, mais il n'empêche qu'on l'a, on l'a. Et voyez comment le texte s'exprime. « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Je livre, c'est fait. Dieu l'a dit, il regarde les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Du fait que sa parole est prononcée, eh bien, c'est fait. C'est fait. Alors, il y a quelque chose à faire pour le peuple. Le peuple va devoir, lui, exercer la foi pendant ces 6 jours plus les 7 tours du septième jour. Il va devoir exercer sa foi. L'exécution va se faire, le reste du chapitre nous l'indique, avec une exactitude magnifique, sans aucune rectification humaine. Hein, attention à ça. La foi n'apporte pas de rectification à la promesse de Dieu. Si on transporte la promesse de Dieu sur un autre terrain, c'est ce que Satan voulait faire devant Jésus, n'est-ce pas? Transporter la promesse de Dieu sur un autre terrain, dans d'autres circonstances, d'autres conditions. Attention, oh, comme ça on le fait, comme plus d'une fois j'ai eu à vraiment m'attrister de ce que je voyais. On saisissait une parole, on la transporte dans des circonstances pour lesquelles elle n'est pas dite. Alors évidemment, ça ne donne rien. Évidemment, ça ne se fait pas. Ça ne peut pas se faire. Il faut rester dans l'esprit. À chaque parole de Dieu, il y a un esprit attaché. Et cet esprit détermine les circonstances, si vous voulez, dans lesquelles la parole pourra jouer, la promesse pourra jouer. Mais là, aucune rectification humaine, la vérité apparaît toujours, l'exaucement c'est une affaire de vérité. Eh bien, la vérité apparaît toujours de l'obéissance à Dieu, l'obéissance exacte, exacte à Dieu. Et dans cet événement considérable, qu'était la prise de cette première ville, la première citadelle, contre laquelle Israël se butait en entrant dans le pays de la promesse, eh bien, la signification était l'épreuve de la foi, était l'apprentissage de l'obéissance à Dieu, l'obéissance exacte, de la confiance en Dieu, la substitution, substitution toujours nécessaire de la parole de Dieu aux raisons de l'homme, aux apparences qui frappent l'homme. La substitution, la foi fait cette substitution. Si elle ne la fait pas complètement, et si les apparences gardent quelque chose, ça détruit tout. La substitution pure et simple, comme Abraham a su le faire, et il espérait contre toute espérance. Il substitue la confiance, la foi en la promesse de Dieu aux apparences. Les apparences disent « Non, tu n'auras pas d'enfant ». La promesse dit « Oui, tu auras un fils ». Alors c'est le « oui » de la promesse qu'il prend malgré, en dépit des apparences contraires. Alors ça, il faut accepter cette substitution de la parole de Dieu, substituer la parole de Dieu à nos raisons. Mes amis, je vous le dis parce qu'il faut vous le dire, il faut que je remue le cendrier, qu'est-ce que vous voulez, n'est-ce pas? Il faut secouer le cendrier. Dans l'administration, on disait secouer le cocotier, mais je préfère parler de cendrier. Et pour éliminer la cendre du doute, n'est-ce pas? Et pour aviver le feu de la foi, alors il faut remuer le cendrier. Eh bien, pensez à cela, n'est-ce pas? La parole de Dieu, il faut que notre foi la substitue absolument aux raisons de l'homme. Or, malgré tout, il y a toujours des raisons qui réapparaissent, qui se mélangent à la foi. Ah, alors ça c'est destructeur. C'est pour ça que nous n'obtenons pas. Eh bien, pour ça, Dieu ne transigera jamais sur la foi. Jamais, jamais, jamais. Ne transigera pas. Ce ne serait pas notre bien. Parce que s'il transigeait, il nous laisserait marcher plus vite et courir dans la voie qui mène à l'enfer. Et Dieu nous aime, Il ne nous aime pas pour l'enfer, il nous aime pour le ciel, pour le salut. Quand l'Esprit de Dieu intervient, alors là aussi le peuple d'Israël va apprendre cette autre leçon que nous avons déjà exprimée ici. Toute relation de cause à effet est écartée. Parce que ce n'est pas les trompettes, ce n'est pas les marches répétées autour de la ville, n'est-ce pas? C'est pas les cris qui vont pousser au septième tour, le septième jour, les cris qui vont pousser, qui font tomber les fortes murailles, elles étaient solides, il y avait des grosses assises, c'est pas ça. Vous pourriez faire le tour du château de Père Guillot et puis crier de toute votre force, vous ne feriez pas tomber le château, mais il est pourtant moins fort peut-être que la forteresse de Jéricho. Eh bien donc, c'est qu'il y avait une promesse de Dieu, et ça rompt la relation habituelle qui est dans l'esprit de l'homme, qui est dans la raison de l'homme, la relation entre la cause et l'effet. Vous voyez, alors ça, il faut l'apprendre. Ce sera aussi l'enseignement de la patience. Dans la foi, il faut une patience, il faut que la foi se maintienne. Et vous savez, la maintenir dans cette circonstance pendant 7 jours... c'était déjà quelque chose. Moi, j'aimerais bien vous y voir tous, et moi aussi, n'est-ce pas, dans certaines circonstances, maintenir la foi pendant 7 jours. Nous avons quelquefois du mal à maintenir pendant 1 heure. Hein? Pendant 7 jours, maintenir la foi 13 fois le tour de la ville. Il y avait 13 tours à faire. C'était assez grand, ça faisait un périmètre assez important. Dieu avait bien des moyens de livrer Jéricho au peuple d'Israël. Voyez-vous, il aurait bien eu d'autres moyens. Dans la Bible, on voit bien d'autres moyens par lesquels Dieu a des moyens divers, par lesquels il a livré des armées entières au peuple d'Israël. Il avait bien des moyens. Un jour, avec David, il lui avait dit, tu vas passer par cette vallée, il y a des mûriers dans cette vallée, et tu vas entendre un bruit de pas dans la cime des arbres. Alors, tu sauras que c'était un moyen, n'est-ce pas, un moyen. Et Dieu, en somme, agit par son esprit, il n'a pas besoin, si vous voulez, de moyens matériels. Il agit par son esprit, par sa toute-puissance, sa volonté, mais pour nous, hommes, nous qui l'éduque, nous à qui il veut faire apprendre des leçons, et nous sommes de mauvais élèves, alors, il emploie ses différents moyens, hein. Et alors, il y a des gens qui discutent, ah oui, des bruits de pas dans la cime des arbres. C'était un vent, vous comprenez, un vent un peu saccadé qui passait là, alors ça faisait comme des bruits de pas. Oh, misérable! Misérable, misérables sont les hommes. Oh, on a lu des choses comme ça. Hein? Oh. Alors, que voulez-vous, n'est-ce pas? Moi, je crois que je serais à la place de Dieu, je m'impatienterais, vous savez, mais heureusement, je n'y suis pas. Mais il y a de quoi s'impatienter, n'est-ce pas? Mais Dieu ne s'impatiente pas, il est vraiment patient. Mais alors, il veut enseigner la patience aussi. Il veut nous enseigner cette patience. Dieu avait bien des moyens de livrer Jéricho, mais la foi doit s'exercer dans la patience. La foi tranquille. La foi qui sait patienter. Il fallait aussi, vous voyez, il y en avait des leçons pour Israël là-dedans, et pour nous, bien entendu, puisque tout cela a été écrit pour nous aussi. Eh bien, il fallait apprendre à ne pas s'illusionner sur la vaillance et sur l'habileté humaine. Il fallait avoir avec soi la volonté divine, et puis savoir que Dieu accomplit de grandes choses avec de faibles instruments, qui sont ceux qu'il choisit, des faibles instruments. Et les Israélites, avec leurs petites trompettes, qui étaient des chauffards, des cornes de bélier, hein, vous savez, n'est-ce pas, avec les cris de ces petits-enfants, c'était des tout-petits-enfants, n'est-ce pas, eh bien, voilà les instruments que Dieu choisit, hein, et lui, il fait des grandes œuvres, il a sa puissance, il a son esprit. Eh bien, nous avons ça, nous, aujourd'hui, n'est-ce pas, dans le temps de la grâce. Nous sommes dans le temps de l'évangile qui est prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Eh bien, cet évangile qui est prêché, il l'est par des hommes qui n'ont pas besoin d'être de grands docteurs, n'ont pas besoin, je ne dis pas qu'il n'est pas bon d'avoir une certaine instruction, bien sûr, mais enfin, même quand les gitans n'en avaient pas du tout, ils ne savaient pas lire et écrire, ils ont quand même annoncé l'évangile. voyez, que ce n'est pas une condition, par conséquent, sine qua non. Alors, il va choisir des hommes sans instruction, en tout cas sans force, et il va leur confier une doctrine, la doctrine de Jésus crucifié et ressuscité, la doctrine de la croix, qui est pour le monde littéralement une folie. Alors, des hommes sans instruction, des hommes faibles, qui s'en vont avec une philosophie qui est une folie, pour ceux qui l'écoutent la première fois, sans foi, n'est-ce pas ? Une folie pour le monde. Alors voilà, voilà l'action de Dieu, vous rendez compte, n'est-ce pas ? Des hommes impréparés du point de vue humain, sont jamais allés à l'école, comme les apôtres n'y étaient jamais allés, hein ? Ce sont des hommes faibles, et puis ils sont porteurs d'un message qui est une folie. Alors vous rendez compte, il faut que véritablement, n'est-ce pas, ce soit l'Esprit de Dieu qui agisse. Alors eux, il leur faut de la foi. C'est pourquoi, mes amis, je le redis encore, parce que je viens de rappeler là les conditions dans lesquelles la bonne nouvelle du royaume de Dieu, du salut par grâce, est portée aux hommes, c'est ces conditions-là. Relisez 1 Corinthiens, et vous verrez, n'est-ce pas, que Dieu a choisi les choses faibles, les choses qui ne sont pas, les choses qu'on méprise, les choses qui n'ont aucune noblesse, n'est-ce pas ? Voilà les instruments, les faibles instruments dont Dieu s'est servi, afin que Dieu soit glorifié, non pas l'homme, mais Dieu. Hein. Et puis alors avec ça, allez, en avant, apportez un message qui est une folie pour le monde. Un message incompréhensible. Incompréhensible si on le soumet à la raison. Il est incompréhensible. Voilà les conditions. Et alors, chers amis, si on veut transformer ça, si on veut faire de la littérature, des affiches, des papiers, toutes sortes de choses, bon, s'il s'agit de reproduire la Bible et ce qu'elle dit littéralement, sans rien ajouter, avec simplicité, bon, je ne dis pas, mais si on veut faire des belles démonstrations, n'est-ce pas ? Démontrer aux gens incrédules que ce n'est pas une folie, mais que c'est très bien, c'est magnifique, c'est superbe, et ça doit s'accepter par la raison. Nous désobéissons à Dieu. Nous sortons du plan de Dieu, et ça ne peut donner aucun résultat. L'évangile n'est pas quelque chose que l'on soumet à la raison des gens. C'est quelque chose avec quoi on percute leur cœur. N'est-ce pas ? C'est un marteau qui doit briser la résistance. Voilà ce que Dieu a voulu. Il ne faut pas sortir de là. Alors, vous savez, quand la muraille s'est écroulée, il a dû y avoir du bruit, hein ? Du fracas. Oh ! Et puis un bruit de tonnerre qui a dû se répercuter, l'écho dans la région a dû être effrayant. Hein ? Toute la muraille, tout autour de la ville s'écroulait. Il faut se représenter ces choses. Hein ? Et puis les cris du peuple, n'est-ce pas ? Les cris du peuple, et puis alors ces cris soudain couverts par le fracas de l'éboulement. Eh bien, c'est ainsi que Dieu exauça, ce que Dieu honora, sa propre promesse. Pour obéir vraiment à l'Éternel et pour recevoir ses grâces, il faut donc, vous voyez, entrer dans le peuple de Dieu. C'étaient des Israélites, ils appartenaient au peuple, à ce peuple que Dieu s'était formé, ce peuple saint, ce peuple mis à part. Il fallait donc, il faut toujours entrer dans le peuple de Dieu, il faut être de l'Église. Et pour moi, vous voyez, je ne vois pas avec satisfaction toutes sortes de gens s'aventurer tout seuls. Ah ça non, absolument pas. Ceux qui s'aventurent tout seuls, n'est-ce pas, comment peuvent-ils être vraiment dans le peuple de Dieu ? Je ne dis pas être dans un mouvement, bien sûr. L'Église de Christ ne peut pas être contenue et renfermée dans un mouvement. Pas possible, ça. Ben, nous, le mouvement, c'est le cadre dans lequel nous avons trouvé bon, de vrai, nous y sommes bien, mais et nous travaillons et nous œuvrons, n'est-ce pas, par la foi et en nous servant de la parole de Dieu. Nous ne nous servons pas de la consigne particulière d'un mouvement, n'est-ce pas, comme on fait dans certains mouvements. Mais, de toute manière, il faut être dans le corps de Christ, il faut être dans l'Église. Et on ne peut pas être dans le corps de Christ isolément. Alors, on est en état de désobéissance. Il faut nécessairement, n'est-ce pas, être soumis aux autres, soumis, n'est-ce pas, à l'Église. Je sais bien qu'il y a des parties souvent assez disparates dans l'Église telle qu'on la voit, telle qu'on peut se la représenter, mais il s'agit du corps de Christ, et pour être dans le corps de Christ, eh bien, il faut être avec des frères et des sœurs. Ça, c'est indispensable. Absolument indispensable. Être dans le peuple de Dieu et se laisser conduire par lui. Et puis, lorsque nous avons une promesse comme celle-ci, l'Éternel vous a livré la ville, il faut le croire et il faut avoir consenti à préparer dans l'obéissance ce moment. Et j'en arrive à ceci qui va terminer notre étude de ce matin, c'est que la foi, la prière de la foi, ou la foi qui s'exerce, si vous voulez, dans la prière, doit être nécessairement suivi des œuvres. Ah, qu'est-ce qu'on appelle des œuvres? Je ne veux pas faire toute une étude là-dessus à ce moment, mais les œuvres, c'est d'abord un comportement, c'est d'abord une manière de se comporter, de se conduire, c'est aussi ce qu'il peut y avoir d'obéissance. La foi et les œuvres qui la manifestent, les œuvres qui manifestent la foi, je ne dis pas préalable, mais ultérieure à la foi, les œuvres qui manifestent la foi ne doivent pas être séparées. La foi et les œuvres, nous avons dit, c'est un arbre, un seul arbre. La foi, ce sont les racines qui vont plonger dans le cours d'eau, n'est-ce pas, et qui sont cachées, on ne la voit pas, elle est cachée dans le cœur, et puis les œuvres, c'est la partie supérieure de l'arbre, la partie aérienne que l'on voit, les feuilles, les fruits, là, tout cela, ce sont les œuvres, il y a les fruits du Saint-Esprit, n'est-ce pas, il y a les œuvres, il y a toute la beauté de l'arbre, toute l'utilité de l'arbre, il y a tout cela, ça, ce sont les œuvres. Eh bien, il ne faut pas que la foi se trouve séparée des œuvres, autrement dit, il ne faut pas que la foi n'accepte pas de se continuer par ce qu'il peut y avoir d'œuvres. Et par exemple, dans le cas de Jéricho, une fois les murailles tombées, il ne s'agissait pas de pique-niquer autour de la ville. Il ne s'agissait pas de s'asseoir là et de se réjouir en disant, voilà, il s'agissait maintenant de prendre possession de la ville. Ah, il y a une prise de possession. Si nous demandons quelque chose, hein, eh bien, il faut que nous soyons prêts, puisque l'exaucement, nous l'avons. Avant de le voir, nous l'avons, n'est-ce pas? Eh bien, il faut que nous soyons prêts à agir en conséquence de l'exaucement. Il y aura nécessairement la continuation par les hommes. Et si Dieu ne voit pas que nous continuions les exaucements qu'il nous donne par la foi, si au contraire, n'est-ce pas, nous en prenons acte, nous en prenons possession pour notre propre intérêt, pour notre plaisir, ben vous savez, Dieu ne nous exaucera plus. Hein? Il ne nous exaucera plus. S'il nous exauce, c'est bien pour que notre foi soit prête, disposée à entrer dans les œuvres préparées d'avance par le Seigneur. Notre prière faite au nom de Jésus renverse nécessairement les forteresses de l'ennemi, n'est-ce pas? Paul le dit dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 10, deuxième aux Corinthiens, et chapitre 10, verset 3, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Nous aussi, nous renversons des Jéricho, n'est-ce pas, par la force de Dieu, par la vertu de Dieu. Nous renversons, quoi, les raisonnements, mais pas en opposant d'autres raisonnements, c'est pas ce que Paul dit, hein. Nous renversons pas les raisonnements par une logique qui va dominer sur la logique de nos adversaires. Enfin, non, pas du tout. Nous renversons en oubliant leur logique, en démolissant leur logique. Nous poussons des cris de foi, nous sonnons les trompettes de la foi, nous annonçons la parole de Dieu avec des trompettes. Et ça renverse des forteresses. Les forteresses sont renversées. nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà ce que, avec un message qui est une folie pour le monde, avec les instruments faibles que nous sommes, enfin, voyez-vous, voilà ce que nous pouvons faire. Renverser des forteresses et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, toute pensée captive de ceux qui sont destinés au salut, bien entendu. Il y aura toujours des gens qui résisteront et qui se livreront à la mort eux-mêmes. Vous savez, Satan s'opposera toujours à ce que nous arrivions à nous tenir sur le terrain d'une foi tranquille, d'une foi vivante, hein, à une foi qui ne doute pas, n'est pas du tout altérée par le doute, et une foi qui est là, qui est sûre, non pas de son fait, mais du fait de Dieu, n'est-ce pas, qui est sûre du fait de Dieu, et qui déjà saisit, qui prend au moment où elle demande, n'est-ce pas, et qui est là, prête à aller en avant, à conquérir le terrain, à entrer dans la ville, à entrer dans Canaan, à faire la conquête de Canaan. Voilà, chers amis, n'est-ce pas, ce qu'on peut dire de la prière de la foi, et la prière de la foi, vous le voyez, doit être utilisée essentiellement pour notre témoignage, pour l'action du témoignage, pour le ministère, pour l'exercice des dons, pour le témoignage entier de l'Église. C'est surtout là que la prière de la foi doit être autorisée, doit être utilisée. Ne voyez pas essentiellement la prière de la foi uniquement pour guérir les petits bobos. Bien sûr, on utilisera la foi pour être guéri, nous en parlerons. Mais essentiellement, c'est une foi d'opération dans le monde pour amener toute âme captive à l'Évangile. Amen.